La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, aujourd'hui on ne va pas vous faire toute la danse des mots par cœur, et pourtant, ça serait une tentation puisque nous allons parler d'un livre qui vient de sortir, qui a été publié aux éditions Mot Conduit, un livre de Gilles Kneuzé qui s'appelle Par cœur et qui donc parle de beaucoup de choses et en particulier de la mémoire. Pas de n'importe quelle mémoire, de la mémoire des comédiens, de la mémoire de ce métier d'acteur et qui, dans ce livre dont le genre est mal défini d'ailleurs, c'est un peu un roman, pas mal, mais c'est un peu un livre de souvenirs qui évoque à la fois le métier d'acteur, à la fois ce problème de la mémoire et donc du rapport au texte et aux mots, et ensuite un certain nombre de souvenirs d'un grand acteur qui n'est pas nommé d'ailleurs, mais en filigrane qu'on peut peut-être deviner. Bonjour Gilles Kneuzé.
Bonjour.
Merci de venir avec votre parkour sous le bras.
Merci
et
à vous.
Et vos souvenirs de ce grand comédien que vous ne nommez pas mais qu'on a le droit de nommer ici à la radio?
Ah oui, vous pouvez le nommer, oui.
Alors, il s'agit donc de Michel Piccoli, qu'on peut deviner relativement vite dans les souvenirs que vous donnez de lui, puisque c'est donc quelqu'un que vous aimez bien, que vous connaissez depuis longtemps, et qui a été l'un de vos partenaires au théâtre, puisque vous êtes également, vous, comédien, même si ce n'est pas votre unique profession.
Oui, j'ai eu la chance de travailler avec lui à deux reprises. Une première fois, lorsqu'il jouait le Roi Lear. Et quelques années plus tard, dans une pièce de Thomas Bernard, Minetti, mis en scène par André Engel.
Et est-ce que vous voyez un rapport justement entre le Minetti de Thomas Bernard et le Roi Lear? Puisque vous mettez sans cesse en relation ces deux souvenirs théâtraux et la présence de Michel Piccoli et la vôtre, puisque vous étiez sur le plateau.
Oui, bien sûr, il y a un rapport direct, parce que dans la pièce de Thomas Bernard, il s'agit de l'histoire d'un vieil acteur qui arrive un soir dans un hôtel à Ostende, un soir de tempête de neige, et ce vieil acteur prétend qu'il a rendez-vous avec un directeur de théâtre pour jouer justement le Roi Lear. Et ce soir-là, ça c'est la pièce de Thomas Bernard qui le raconte, il ne rencontrera qu'une femme seule assise sur un canapé, qui boit du champagne, qui est un peu saoul, un portier d'hôtel que je joue, une jeune fille qui attend son amoureux, un bagagiste, un nain en costume de marin. Enfin, tous ces personnages vont passer la soirée à l'écouter, raconter sa vie, son parcours de comédien. Et ce directeur du théâtre avec lequel il a rendez-vous ne viendra jamais.
Bah oui, il ne viendra pas. C'est l'un des ressorts du théâtre, justement, de faire attendre quelqu'un qui ne vient pas. Alors, est-ce que je pourrais vous demander que vous nous lisiez l'incipit, le tout début de ce texte par cœur Gilles Kneuzé, ce texte donc qui vient de sortir et qui se lit extrêmement agréablement en nous donnant beaucoup de détails et beaucoup d'anecdotes sur le monde du théâtre et le vôtre.
Merci beaucoup. J'ai longtemps hésité avant d'écrire cette histoire. D'abord par égard pour lui, pour son goût du secret, du silence, pour sa pudeur. Il me semblait plus juste et plus fidèle de ne pas en parler. Ensuite, parce que j'ai toujours pensé que tout n'a pas à être raconté. Et puis, dans un livre paru récemment, il parlait de son métier d'acteur, un métier qu'il qualifiait d'extravagant, avec lequel il s'était régalé, et dont la première qualité était à ses yeux la capacité de savoir s'amuser, s'amuser à oser, en complicité avec ses partenaires. Il disait que la vie l'avait aidé à apprendre à jouer, et que jouer l'avait aidé à apprendre à vivre. Pour lui, l'acteur parfait, le modèle absolu, c'était Mastroianni, son partenaire dans plusieurs films. Mais il parlait aussi de sa mémoire qui s'en allait, de sa difficulté aujourd'hui à travailler, et de la douleur de ne plus pouvoir jouer. J'ai pensé que cet aveu me donnait la permission de raconter.
Merci beaucoup pour ce début. Alors, vous parlez donc de cet acteur qu'aujourd'hui vous vous autorisez à nommer, donc c'est Michel Piccoli, qui vous parlait de la douleur de ne plus pouvoir jouer.
Oui.
Et un peu plus loin dans le texte, vous dites combien ce mot de jouer lui plaisait précisément. Avec une référence d'ailleurs à Mastroianni. Mais qu'est-ce que ça lui évoque à votre avis et qu'est-ce que ça vous évoque le fait que parler sur une scène de théâtre pour des spectateurs, ça s'appelle jouer en français et pas dans toutes les langues?
Ben, je cite, au début du livre, je cite un texte sur lequel je suis tombé de Mastroianni, où il définit très bien la notion de jeu, de manière très simple. Pour lui, le jeu, c'est un amusement avant tout. Et le fait de s'amuser sur un plateau de théâtre, même si ça paraît un peu désuet comme ça, c'est une chose essentielle. Et c'est un mot qu'il utilisait très souvent. Ça l'amusait de jouer ça. Malgré les difficultés, malgré les problèmes de mémoire. Et je pense que on s'en est sorti, enfin lui avant tout, grâce au jeu, et que la manière avec laquelle il a affronté ce problème, cette difficulté, cette mémoire devenue fragile, et il ne voulait aucun artifice pour s'en sortir. Il aurait très bien pu utiliser comme beaucoup l'auraient fait. On utilise aujourd'hui une oreillette. Oui. Hein, les acteurs.
Et vous racontez que justement, on le lui propose, il accepte et au dernier moment, il la repose.
Mais il accepte pour jouer le jeu.
Pas du jeu, mais presque.
Ben il accepte pour jouer le jeu parce que c'est quelqu'un qui a vraiment le souci de la troupe, du travail commun sur un plateau, qui respecte énormément les partenaires avec lesquels il joue. Et l'oreillette serait été la solution de facilité.
Parce que ça permet, quand on a un trou de mémoire, que quelqu'un puisse vous souffler, enfin vous dire les quelques mots qui vous manquent et que vous puissiez reprendre.
Ah oui, c'est utilisé aujourd'hui assez souvent, très souvent, même par des acteurs qui n'ont pas forcément des soucis de mémoire, par facilité, par...
Oui, c'est un filet de sécurité.
C'est le souffleur d'aujourd'hui, si vous voulez. Et lui a joué le jeu comme ça en répétition une fois, mais jouer avec ça dans l'oreille, ça ne l'amusait pas.
Alors, on y reviendra tout à l'heure, mais je voudrais, moi, vous poser une question sur ce mot d'amusement que vous mettez en scène dès le début de votre livre, et qui est un mot un petit peu ambigu, puisque un peu plus tard, par exemple, vous racontez que, jeune étudiant en médecine, vous décidez de faire du théâtre, de prendre un cours de théâtre, que vous allez voir une professeure un peu intimidante, qui vous demande pourquoi vous voulez faire ça, et vous lui dites, parce que ça m'amuse, et elle vous reprend sur le mot.
Oui, je me souviens très bien. C'est pas sur le mot d'amusement qu'elle m'avait repris, c'est sur le mot de plaisir. J'étais un peu intimidé, j'étais tout jeune, c'est la première fois que je me présentais à un cours de théâtre. Je lui ai dit que j'étais venu là pour apprendre à jouer, et puis elle m'a laissé continuer, et j'ai prononcé le mot de plaisir. Du plaisir de jouer. Et là, elle m'a repris, je me souviens très bien, et elle m'a dit, vous savez que entre le plaisir et le théâtre, c'est une affaire compliquée, et ce sont deux mots qui ne vont pas toujours ensemble.
Un bout de course en compagnie de Camille Berthaud, puisque c'est le nom de cette chanteuse qu'on vient d'entendre. Donc, course, c'est le nom du morceau dont on a entendu un extrait. Gilles Knosé, j'aimerais bien revenir à ce que vous évoquiez il y a un instant, c'est-à-dire le plaisir. Et j'y pense peut-être parce qu'on vient d'écouter de la musique, des musiciens, des improvisateurs, qui a quelque chose qui ressemble un petit peu. On a du plaisir à être sur scène, et en même temps, ce plaisir est lié à un trac, à une peur, à un côté dramatique qui est inséparable du métier de comédien.
Oui.
Quel est le lien entre les deux ? Le plaisir est toujours susceptible d'être là, mais la panique, le drame, la peur est toujours susceptible d'être là aussi, et les deux sont assez mêlés.
Oui. Le plaisir en jouant, notamment un soir de première, il est quand même assez rare. Hein. Le plaisir, il est énorme après, une fois que les choses se sont passées, qu'il n'y a pas eu de catastrophe. Le plaisir, il est pendant les moments de répétition, avant, quand on sent la tension qui monte, quand on sent l'approche de la première arrivée. Là, il y a du plaisir. Il y a le travail de troupe aussi, il y a quelque chose de solidaire. Enfin, le théâtre, c'est une histoire de famille, hein, c'est une histoire de groupe. Donc il y a une espèce d'énergie comme ça, commune, qui monte petit à petit. Il y a le jour de la première, mais au moment du moment de rentrer en scène, un soir de première, c'est le trac, hein, qui prédomine. Le plaisir, il est immense après.
Alors justement, vous mentionnez aussi le fait que il y a un plaisir de la troupe, c'est-à-dire un plaisir d'être ensemble, et qu'en même temps, chacun est face à sa solitude. Il y a un passage très amusant dans votre livre où vous dites que justement, quelques minutes avant d'entrer en scène, quand c'est un soir de première, on voit tous les gens, et tous les gens sont en face, chacun, de leur peur. Il y a celui qui a le trac qui le dit pas, celui qui feint de pas l'avoir, etc.
Oui.
Celui qui a perdu son chapeau, celui qui est mal maquillé, celui qui a fait ceci, il y a une galerie de portraits, et on voit que c'est à la fois la troupe et en même temps des personnages singuliers.
Oui, complètement. Au moment de rentrer en scène, on est tout seul, oui, effectivement. Mais il suffit d'échanger un regard avec un partenaire, soit en coulisses, soit pendant le spectacle. Et cette peur-là, ce trac disparaît, et on se charge des autres, hein, sur un plateau. Au théâtre, il y a ce que voit le public de la salle, mais quand on est sur le plateau, on est très proche des autres, des autres partenaires. Et dans les regards, on voit des choses qui nous nourrissent quand on joue. Dans les yeux, dans la voix, on se charge de tout ça.
Est-ce qu'il faut savoir transformer le trac? Le trac est très certainement nécessaire pour qu'il y ait cette excitation et cette présence. Si on a trop, il vous paralyse.
Oui, oui.
Si on n'a pas assez, pas grand-chose ne se passe.
Oui, oui, il faut le transformer. C'est une espèce de chose qui peut être paralysante, mais c'est une énergie qu'il faut réussir à inverser. Et généralement, le pire, c'est quand le trac disparaît et revient. Ça peut arriver. Un moment de flottement, un trou, quelque chose qui se passe sur scène et qui n'était pas prévu. Là, le retour de trac en plateau, c'est assez ennuyeux.
Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on chevauche une fois pour toutes.
Non, oui, c'est ça, oui. Oui.
Il peut avoir des dents de scie et
il
revenir
peut,
quand
peut
on
revenir,
l'attendait
peut
pas.
Revenir.
Et à ce moment-là, on est moins armé.
Oui, on est moins armé parce que il y a quelque chose qui aide pour le trac, c'est l'entrée en scène, c'est une espèce d'énergie. On passe d'un monde, d'un univers à un autre. On est en coulisses, on rentre en scène et ce passage comme ça. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe physiquement. Il faut y aller, on n'a pas le choix. On sent que le public est là, que les copains sont là sur le plateau, et puis il faut y aller, quoi.
Et ça, c'est très intéressant parce que pour moi qui ne suis pas comédien, ça m'a montré un petit peu l'envers du décor. Il m'arrive quand même souvent d'aller au théâtre. Ce qui est formidable quand on est comme spectateur au théâtre, c'est qu'on est devant un rideau et que la plupart du temps, hein, parfois il y a des mises en scène qui évitent le rideau. Mais quand on a un rideau, tout d'un coup le rideau va se lever et on ne sait pas ce qu'on va voir.
Ouais.
Et on voit quelque chose d'éclairé.
Ouais.
Une scène, un salon, une chambre à coucher, une grotte, un paysage, peu importe. Mais tout d'un coup, on est devant une scène. Et vous évoquez ça, mais de l'autre côté, c'est-à-dire que vous sortez de la coulisse.
Oui. Ben, c'est-à-dire qu'on vous voit aussi, nous, sur la scène. Je parle du public. Enfin, on vous sent, en tout cas. Et c'est très impressionnant quand on passe des derniers jours de répétition où la salle est quasiment vide, mis à part le metteur en scène qui est là, derrière sa table, le scénographe, le dramaturge. Mais du jour au lendemain, la salle se remplit. Il y a une espèce de densité, c'est un mot que j'utilise souvent dans le bouquin. Il y a une densité dans la salle qu'on ressent de manière très forte et on se sert de ça, nous. On se sert de cette énergie qui vient de la salle.
La danse des mots avec vous, Gilles Tenezé, à propos de votre livre Par cœur, qui évoque donc à la fois votre carrière, médecin, comédien, celle de Michel Piccoli, et puis le rapport aux mots, le rapport à la mémoire qu'on vient d'évoquer à travers ce trac. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que vous dites comment justement on peut se débrouiller avec un petit peu d'expérience quand on a un trou. Qu'est-ce qu'on appelle un trou, Gilles Tenezé ?
Un trou, c'est quand la... Les mots ne viennent plus ou ne viennent pas. Ça peut arriver. Souvent, le trou arrive quand on. En tout cas, en ce qui me concerne, ça m'est déjà arrivé. Une concentration qui diminue, qui s'en va. Quand on a trop d'assurance à un moment donné dans un moment de jeu, le trou peut arriver de manière...
Quand le trac s'en va, justement.
Oui, exactement.
Et quand on anticipe moins sur les mots à venir, ça aussi c'est intéressant. Comment est-ce qu'on est sur le texte? On est dans ce qu'on dit, mais en même temps, il faut avoir, d'une certaine façon, un horizon du texte à venir, parce que sinon, il peut disparaître.
Oui, il faut pas anticiper, c'est ça la difficulté. Il faut vraiment jouer le texte, instant par instant, mot après mot. Le théâtre, c'est le présent. Hein. C'est ce qui est essentiel au théâtre, c'est de vivre et de jouer les choses au moment présent. Tout en sachant ce qu'on va faire dans les minutes qui suivent, puisqu'on a répété, on a fait des filages, on sait ce qui va se passer. Mais il faut pas y penser quand on joue. C'est vraiment l'instant présent qui est important au théâtre. Ce qui est vécu au moment présent.
Mémoire. Oui. Mémoire. Oh, mémoire. Dans la folie recluse, où j'étais enfermé, ma mémoire en intruse vient de se réveiller. Dans ma vie sans soleil, ma mémoire appareille vers un passé soleil sur fond rouge vermeil. Ma mémoire me diffuse des images confuses, et je m'en éblouis et je les reconstruis. Ma mémoire me balance le mal de votre absence. Ce souvenir d'enfer me brûle à cœur ouvert. Mémoire, mémoire d'un autre temps, d'une autre vie, tu me reviens dans l'eau du paysage. Se mire vos visages en mémoire des aubes pâles, des matins pâles, tu me fais mal. Mais tu me ramènes doucement ma vie recommencée. Oh, oh, mémoire, au bout de mes doigts, j'entends et je vois l'image d'un paysage dévasté. Comment ai-je pu quitter ce que j'ai tant aimé? Mémoire, tu me reviens. Oh mémoire, tout me revient.
Alors, Gilles Kneuzet, vous racontez cette anecdote touchante de vous jouant donc avec Michel Piccoli. Piccoli ayant peur d'oublier son texte et vous demandant de l'aider, mais discrètement.
Oui, discrètement, oui. Oui, parce qu'on savait pas du tout comment... Lui, le premier, savait que la première s'annonçait difficile, donc il fallait qu'on trouve une solution. Et on en parle quelques heures avant de jouer. Et il me dit, mais il faudra que tu m'aides, mais discrètement, oui, discrètement, mais discrètement en jouant. C'est-à-dire que ce qui m'a profondément marqué dans cette expérience, parce que là je raconte la première, mais ce spectacle on l'a joué plus de 80 fois.
Le spectacle donc de Thomas Bernhard.
Oui, de Minetti, un mois à Paris, ensuite en tournée, et en fait, la seule manière de s'en sortir, c'était de jouer. C'était à jouer la pièce de Thomas Bernhard, bien sûr. Mais ce qui m'a profondément marqué chez lui, c'est la manière avec laquelle il a affronté cette difficulté. Et la seule manière de l'affronter, c'était d'en faire un moment de jeu. Donc il y avait entre nous, j'appelle ça un accord tacite, parce que c'est ce on en a jamais parlé de ça entre nous, sauf juste avant de jouer le soir de la première. Après on n'en parlait jamais.
Et c'est un petit peu un défi, parce que ce n'est pas la même chose de souffler un texte quand vous êtes juste à côté du comédien, oui, qui a son trou, ou bien si vous êtes à 10 mètres ou dans la coulisse, voilà. Il faut trouver d'autres moyens avec cette, oui, discrétion qu'il vous demande.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que jusqu'à la veille au soir, le soir de du dernier filage, quand je devais l'aider, je lui soufflais son texte à voix haute parce que la salle était vide. Mais quand la salle serait pleine le lendemain, je savais pas du tout comment on allait faire.
Il fallait improviser,
oui. Et c'est lui, enfin c'est il a inventé des moments de jeu qui étaient pas prévus, qui me permettaient de m'approcher de lui et de lui glisser quelques mots pour qu'il puisse.
Oui, parce que vous racontez que au moment où justement il ne sait pas la suite de son texte, lui-même improvise. Il répète une, oui, phrase. Il vous donne le temps de vous approcher, de lui dire à l'oreille, oui, ou tout bas la suite du texte. Et à ce moment-là, il s'en amuse parce qu'il n'embraye pas tout de suite. Il continue à improviser un petit peu.
Oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il m'a fait venir à un moment donné. Oui, ça c'était le soir de la première. Oui, il m'a fait venir. J'étais de l'autre côté du plateau. Il fallait bien trouver un moyen de m'approcher de lui. Mais c'est lui qui a pris l'initiative d'inventer un moment de jeu comme ça pour que je puisse m'approcher de lui. Et c'est vrai que j'ai vu dans son œil à ce moment-là, malgré la difficulté de jouer ce soir-là, j'ai vu son œil, je dis son œil qui frisait, parce que c'est ce que j'ai vu. Et que malgré ça, de ces moments délicats, difficiles, liés à sa mémoire, il en a fait des moments de jeu. Et je pense que c'est grâce à ça, c'est grâce au jeu.
Oui, parce qu'il ne se laisse pas emporter par la panique, par
pas
exemple.
Du tout.
Et au contraire, il prolonge un petit peu ce moment où on est totalement sur le fil.
Pas du
puisque,
tout. Oui,
puisque
tout à fait.
Personne ne sait ce qui va être dit après, qui continue donc à remplir d'une certaine façon, c'est-à-dire à broder. C'est de la broderie.
Oui, complètement. Et au-delà de la dimension artistique, théâtrale, et de l'immense acteur qu'il est, enfin que l'on connaît tous, ce soir-là, comme tous les autres soirs quand on a joué Minetti, c'était à la fois, c'était toujours une leçon de théâtre, comme à chaque fois qu'il jouait, mais c'était aussi et surtout une leçon de, enfin moi que j'appelle une leçon de vie, une manière de d'affronter ce souci de manière admirable, quoi, enfin qui m'a profondément touché. Ouais. C'est pour ça que je me suis permis de le raconter dans ce livre.
Alors, la mémoire, c'est tout à fait important quand on est comédien, quand on est acteur. D'ailleurs, souvent, vous dites acteur et pas comédien dans votre texte. Est-ce que c'est prémédité? À un moment, il a un problème, il a un souci de santé. Vous qui êtes médecin, vous y allez, vous l'aidez, les pompiers arrivent, ils ne le reconnaissent pas, ils lui demandent son nom, le metteur en scène s'agace et ils finissent par lui demander sa profession alors qu'il est sur scène et le metteur en scène dit acteur.
Ouais.
Il ne dit pas comédien.
Ne dis pas comme. Alors oui, il y a une différence entre les deux mots. Acteur, on l'associe souvent au cinéma.
Oui. Hein.
Comédien, c'est plus lié au théâtre. Il se trouve que lui, c'est un immense.
Bah, Piccoli a fait les deux.
Mais il a fait évidemment
largement.
Les deux de manière. Ouais.
Et puis, puisque vous parlez beaucoup des problèmes de mémoire dans ce par cœur, vous parlez aussi de la façon dont on essaye de les anticiper, ces problèmes. Par exemple, en répétant, et en répétant parfois de façon purement mécanique.
Oui.
Vous parlez de ce qu'on appelle une italienne. Qu'est-ce que c'est
Une italienne, c'est un exercice que tous les comédiens font régulièrement avant de jouer. C'est de répéter le texte de manière très rapide, sans penser au jeu, enfin uniquement sur le texte. Alors ça s'appelle une italienne parce qu'une vraie italienne se parle rapidement.
Mm-hmm. Et d'une certaine façon, sans le ton, c'est-à-dire
sans le ton,
uniquement
de manière blanche. Oui,
oui, c'est ça.
Oui, de manière blanche, ce sont les mots les uns après les autres pour être sûr que le texte est en mémoire et qu'il sera prêt à être joué.
Et ça vous aide alors?
Ah oui,
parce qu'on pourrait penser que de temps en temps, on se laisse porter par l'émotion, par le fil du texte, par le jeu des acteurs, alors que l'italienne justement exclut absolument tout ça.
Oui, mais alors une italienne se fait à plusieurs, c'est-à-dire qu'on est là, c'est un exercice qui se fait systématiquement, surtout avant les premières représentations. Ou alors quand on n'a pas joué le spectacle depuis longtemps, qu'on part en tournée, qu'il y a quelques jours de pause, on recommence toujours le travail par une italienne. Alors on peut faire aussi une allemande.
Qu'est-ce que c'est qu'une allemande?
Alors une allemande, c'est une variante de l'italienne, c'est le texte mais en place, en mouvement, dans le décor, mais de manière très rapide.
Et ça fait en fait une sorte de d'échauffement.
Oui, de training, d'échauffement. Ouais. Ce sont les gammes du comédien.
Ouais. Alors on terminera avec quelques anecdotes extrêmement amusantes qu'on trouve dans ce texte extravagant. Vous dites que justement extravagant est un adjectif que Piccoli aime beaucoup sur votre double métier de médecin et de comédien, parce que les autres comédiens n'oublient jamais que vous êtes médecin.
Oui, enfin, quand on a été médecin, je l'ai été jusqu'à l'âge de 36 ans, parce que on le reste un peu toute sa vie. Et effectivement, oui, les copains comédiens, puis les autres, que ceux qui sont pas comédiens, c'est vrai qu'on me demande régulièrement des conseils, de mon avis sur certaines pathologies.
Ben heureusement que vous êtes là pour le donner, cet avis. Merci encore, Gilles Tenezet, d'être venu dans La Danse des Mots pour
Merci
nous parler,
vous.
Non pas par cœur, mais presque, de ce livre qui vient de sortir aux éditions Mots Conduits. Merci bien d'avoir été l'invité de cette émission La Danse des Mots qui vous est proposée par le réseau Canapé et par RFI. Véronique Durand, Lucie Bouteloup, Yvan Hamard.